84.
Salut, c'est la Poulie, comme tous les lundis sur Radio Primitive. Alors, une fois n'est pas coutume, cette semaine, on commence avec un invité. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, Jean-Noël. Jean-Noël, un militant communiste anarchiste et aussi impliqué dans la lutte de nos bassines, nos bassaranes 0851. Et qui est aussi affilié à cette grande vague des soulèvements de la Terre. Alors voilà, aujourd'hui on va parler des Ardennes.
Ok.
On vous en a déjà parlé, il y avait eu un premier tract avec une sorte de réponse vrai-faux qui exposait tous les points. Et on a eu le deuxième tract vient de nous arriver, voilà, donc on a plus d'infos. Je peux peut-être commencer par vous en lire un petit extrait qui se trouve ici. Voilà, je vous lis la fin du second tract, ça nous remettra un petit peu les pieds dedans. Et enfin, comment ne pas parler de ce projet insensé, mené une fois encore par TSE à Déni. Là, c'est une forêt de 30 hectares qui vient d'être rayée de la carte pour installer une centrale photovoltaïque de 79 000 panneaux. Ce projet a anéanti la faune et la flore qui vivaient ici paisiblement depuis plus de 30 ans, alors qu'il ne sert que des intérêts privés, avec une création d'emplois quasi nulle, produire toujours plus d'énergie à un prix, celui de nous priver de l'oxygène émis naturellement et gratuitement par nos arbres. Donc ça c'est... Et donc la fameuse date qu'on voulait vous annoncer, c'est samedi prochain, donc le 28 octobre. Il y a une manifestation puis on va peut-être laisser la parole à Jean-Noël pour nous en dire un peu plus.
Pas de souci. Oui, une manifaction qui va se mobiliser sur la commune de Denis. Donc la commune de Denis, c'est à quelques une petite dizaine de kilomètres de Sedan. Sedan, c'est connu. Le député de cette circonscription, on peut lui attribuer un certain nombre de déprédations sur le territoire. Il n'en est pas à son premier coup avec cette forêt saccagée. On n'ose même plus parler de diversité, de biodiversité sur ce territoire, parce que comme tu l'as dit, la forêt a été totalement rasée. Et encore mieux, elle a été dessouchée, c'est-à-dire qu'il y a des pelleteuses qui sont passées à l'opération suivante de dessoucher pour avoir un territoire lisse comme la table, lisse comme le marbre, quoi. Et donc, on a bien conscience en appelant à cette manifestation de se mobiliser en quelque sorte sur un champ de ruines. Mais qu'à cela ne tienne, il faut quand même affirmer avec force que ce projet reste totalement dans l'illégalité, même si pour ce gouvernement actuel et ses autorités, ses édiles départementales, il s'agit coûte que coûte de passer en force, et c'est d'ailleurs pour cela que l'entreprise TSE et tous les petits bras, les petites mains, sont allés à une vitesse assez inouïe. D'une part, vous l'aviez peut-être déjà signalé, mais au départ, il y avait 10 bûcherons qui travaillaient pour l'abattage. Et puis, il s'est passé une chose assez étrange, c'est que il y a 2 pelleteuses abatteuses qui sont venues pour renforcer, et les bûcherons ont été éconduits. Afin que le chantier aille plus vite. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que les autorités départementales avaient un doute sur un recours possible, un recours suspensif des ONG? Le recours n'a pas eu lieu, ou en tout cas, il y a eu une tentative par l'association Renard, qui est une association ardennaise, de naturalistes ardennais. Ils ont essayé de faire un recours. Celui-ci n'a pas été plaidé. Et néanmoins, la structure TSE, qui est le leader du photovoltaïsme en France, cette entreprise a des gros, gros chantiers dans tout le territoire français et procède de la même manière, puisqu'actuellement, je crois que ce sont eux qui opèrent sur la fameuse montagne de Lure, dans la vallée de la Durance, en territoire alpin. Mais alors, pour ce qui nous concerne, là, pour Denis, le collectif a décidé d'élargir le champ d'observation et sur ce territoire traumatisé. Moi, je dirais une chose, c'est que la clochardisation des paysages souvent précède la clochardisation des populations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a une demi-douzaine de projets très très importants qui ont été menés sur le territoire entre Sedan et la frontière qui nous mène à Bouillon. Au niveau rural, au niveau agricole, au niveau élevage, on a d'abord connu, les habitants, les éleveurs ont connu par exemple un déclassement de leurs terres. Sans doute en périphérie de ce projet autoroutier qui a été mené entre Sedan et Bouillon. Déclassement des terres. Ensuite, il y a quelqu'un de très connu pour être un bétonneur, un oligarque bétonneur, une grosse fortune ardennaise, qui s'appelle Urano, qui lui a des carrières assez assez colossales dans le Sedanais. Donc les carrières, c'est à Francheval, une surface agricole de l'entreprise. L'autre nom, c'est Matériaux Concassés Ardennais. Donc, c'est Urano qui a la main là-dessus. Ils s'apprêtent à agrandir leur carrière. Donc, un décor qui nous fait penser à l'entreprise Lutzerat en Alsace. Une partie anciennement exploitée deviendra une installation de stockage des déchets inertes qui accueillera notamment les déchets liés au chantier climaticide du Grand Paris, soit 500 000 tonnes par an, soit 80 camions par jour. Voilà. Sur la commune de Douzy, c'est une autre commune, c'est pas Dagny, c'est Douzy. Il y a de nouveau une installation photovoltaïque de 38 hectares, soit 81 000 panneaux, sur des terres, cette fois, qui sont des terres fertiles, qui sont des terres cultivables. Le troisième point, c'est la commune de Douzy. Je vous en ai déjà parlé. Alors, sur la commune de Douzy, on avait des espèces protégées, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, ça appartient au passé. On avait la pigriache écorcheur, on avait la hulotte, on avait une multitude de passereaux qui étaient installés sur ces territoires, qui, au départ, il faut le rappeler, c'était une friche militaire qui a été laissée en 1984. L'armée avait laissé son site et l'avait sans doute cédé au Conseil général. Et ce Conseil général a revendu le site. Alors, on ne connaît pas le dessous des cartes de cette vente, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est une vente passablement frauduleuse, puisque aucune étude n'a été faite, à tel point que les arbres qui étaient installés sur cette forêt a été évaluée comme une friche. Donc des arbres sans intérêt au regard de ce forestier de la région de Vouziers. Et en fait, les forestiers qui sont impliqués dans cette bagarre ont analysé les souches et il s'avère qu'il y a des arbres qui ont jusqu'à entre 37 ans et 50 et plus de 50 ans. Donc voilà, ce qui fait que la forêt ne pouvait pas être qualifiée de friche industrielle. Donc ça, c'est peut-être un peu une question un peu trop juridique, mais en tout cas, ça dénote de cette volonté d'en finir avec des territoires qu'on prétend, qu'on déclasse en fait. On déclasse les territoires, ainsi on peut y faire tout et n'importe quoi. Voilà, il y a d'autres choses que nous avons analysées dans cette carte au dos du tract. Il y a six territoires. Il y a notamment la zone industrielle Unilin, qui est une zone assez énorme, qui fabrique des copeaux. Enfin, je crois qui est une usine à bois de masse, quoi.
Okay. Tu parles du dos du tract. Ouais. Vous avez mis en place un bel outil qui est assez édifiant, qui est assez triste aussi. Donc là, ça représente quoi? Une dizaine de kilomètres carrés. Et voilà, entre les zones industrielles expropriées pour l'industrie, je vous lis un petit peu, bois rasé pour unité de méthanisation, des forges, des carrières, un engrillagement de chasse commerciale, encore des carrières, des panneaux photovoltaïques, des forêts rasées. Voilà, c'est assez triste, mais il y a des gens là-bas qui se mobilisent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu faire vite, parce qu'ils ont peut-être senti un peu le vent tourner. Il y a quand même des gens de ton collectif qui font un peu bouger les choses. Et peut-être que cela a fait un petit peu peur. Ils ont peut-être voulu accélérer le mouvement aussi.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, on a été surpris à un moment donné. Il y a eu une diffusion, parce qu'en fait, le collectif avait décidé d'aller rencontrer les habitants du village de Denis, mais malheureusement, bon, c'est un peu un village dortoir. Il n'a pas été possible de rencontrer les gens et au contraire, à contrario, le groupe qui était allé faire du porte-à-porte s'est retrouvé avec ce monsieur, gros entrepreneur, grosse fortune ardennaise, exploitant forestier, qui a racheté le territoire, les a menacés, les a invectivés. Et il les a menacés de son, j'allais dire de son glaive, mais non, c'est d'une baïonnette. Donc, je vous passe les détails, hein, du climat de ces gens qui se croient vraiment tout puissants et qui se permettent de rayer de la carte comme ça des territoires forestiers. Alors. C'est vrai, on s'habitue, hein. On finit par s'habituer aux champs de ruines. Ça, c'est quelque chose qu'on a connu, qu'on connaît, puisque la lutte est loin d'être terminée encore, à Bure, dans la forêt de Bure, ou une forêt qui a été complètement laminée, pour un projet d'installation de poubelles nucléaires. Et... En d'autres endroits, là en ce moment, il y a la lutte de la 89 qui se poursuit avec les
à 69.
Pardon, à 69, oui, excuse-moi. Mais c'est aussi le cas pour l'implantation des bassines dans le Poitou, où là, la mobilisation s'est retrouvée à des endroits complètement détruits pour y établir des bassins. Donc, est-ce qu'on doit s'habituer pour autant ? Non. Nous, on a décidé de pas s'habituer. Je pense qu'il y a des Belges aussi qui sont concernés, qui vont se déplacer. Il y a des Gilets jaunes aussi qui sont motivés, qui prennent conscience de cette réalité-là. C'est bien, c'est aussi une évolution de la part d'un mouvement. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de replanter la forêt. Alors c'est très symbolique, hein, parce que évidemment ça sera sans doute simple d'enlever les arbres qu'on aura réimplantés, mais en tout cas on le fera, et donc on le fera samedi à partir de 14h. On se retrouvera sur la place. Il faudra peut-être qu'on évoque les moyens pour se déplacer, s'il y a des auditeurs ou auditrices qui sont motivés pour se déplacer, savoir comment s'organise collectivement pour le déplacement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire.
Eh bien, merci, on se met un petit peu de musique,
voilà,
peut-être.
Ouais. Et puis en espérant qu'il y ait du monde samedi à 14h à Denis, comme nous a dit Jean-Noël, ne pas s'habituer.
Ouais, et replanter.
Back to the wall with the back of all stairs. You make yourself up how you wanna be seen. Call your number, don't have to listen to what they say. Cause it's
c'était Class, le groupe, et la chanson Behind the Ball, de retour dans la poulie. On va parler là d'un article paru sur le site de la Quadrature du Net, et qui nous parle d'un projet de loi. Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et donc l'idée derrière cette loi, c'est de demander en fait aux navigateurs internet de participer à la censure des sites que en fin de compte la police, puisque il y a pas besoin de juge pour ça, estimerait dangereux quoi. Et donc l'idée, c'est d'intégrer un composant dans les navigateurs internet qui irait collecter sur un... Enfin, en fait, on ne sait pas trop. Pour l'instant, c'est pas vraiment défini. Mais les seules solutions, c'est soit d'avoir une liste en dur dans les navigateurs, mais elle pourrait pas intégrer les nouvelles censures. Et donc, il faudrait plutôt que le navigateur communique avec une autorité qui diffuserait une liste pour savoir si les sites sont autorisés ou pas. Et donc là, ça veut dire que tout le tiers qui détiendrait cette liste serait, en fait, pourrait voir la navigation intégrale de tout le monde, quoi, de tous ceux qui utiliseraient Internet. Donc pour l'instant, il existe déjà une censure sur Internet qui est effectuée. Alors une censure, c'est pour les sites pédopornographiques, terroristes, etc. Et donc ça, c'est et puis sûrement d'autres choses que on sait pas trop ce qui est censuré, hein. Et donc cette censure, elle s'effectue via le DNS, c'est-à-dire que votre navigateur, à chaque fois que vous cherchez quelque chose, il communique avec un autre serveur pour savoir où se trouve l'adresse que vous cherchez. Vous tapez des choses que vous comprenez et ça transforme en choses que l'ordinateur comprend, on va dire. Et du coup, en fait, c'est assez simple de contourner cette censure, puisque le DNS, c'est des serveurs, il y en a plusieurs, et donc si on choisit de pas passer par les DNS des fournisseurs d'accès français, en fait, on peut tout à fait contourner la censure du gouvernement français. Bon, on sera concerné par les censures par lesquelles est concerné le serveur DNS qu'on choisit d'interroger, quoi. Voilà. Et donc il y a un mouvement pour lutter contre ça, parce que en fait c'est de plus en plus la fin de la vie privée sur Internet. Et le problème avec ce projet de loi, en plus déjà d'abîmer la confiance dans les navigateurs, qui sont des logiciels externes au gouvernement, quoi. C'est pas un service gouvernemental que les navigateurs. Et déjà, ça abîme la confiance donc dans ces navigateurs. Et en plus, ça, on voit le, enfin le. Déjà, on sait pas qui choisit, et le juge ne. C'est compliqué. J'ai mal préparé mon topo. Le juge n'est pas interrogé pour savoir, il est interrogé a posteriori pour savoir si la censure est légale ou pas. Donc en fait, c'est l'autorité, la police, quoi, ou une autorité administrative qui va se charger de censurer ce qu'elle souhaite, sans le contrôle d'un juge. Voilà. Et ça mènerait surtout au fait que toutes les communications via Internet des Français soient surveillées. Donc voilà, mobilisation contre la loi. SREN, le filtre anti-arnaque des gouvernements. Voilà. On va écouter un petit peu de musique ou pas. Non, on ne va pas avoir le temps d'écouter celle-là de musique. Ah.
Je viens juste, si on a encore quelques minutes, il y a Alarm Phone qui vient un réseau d'aide pour les personnes qui traversent la Méditerranée. En fait, si vous avez un peu trop de sous, là, ils lancent un petit appel à dons, parce que ça leur coûte environ 500 € par jour de frais téléphoniques, en fait. Ils sont répartis autour de toute la Méditerranée, en France, en Espagne, au Maroc, etc. C'est des bénévoles, hein. Ils sont présents dans 12 pays, ils sont environ 200. Et ils ont assisté plus de 6000 bateaux en détresse depuis 2014, et 1322 en 2022. Et donc là, je vous annonce les frais délirants. Ils ont une facture de téléphone de 143 000 euros pour 2022, là. Donc ils sont, Et ça, ça augmente. Il y a encore 2 ans, ça leur coûtait 28 000 euros. Donc là, ça a explosé. Ils prennent en charge, évidemment, tous les appels. Ils payent tous les appels que les gens dans les bateaux en détresse émettent. Et c'est pour ça que ça vaut 8 euros la minute, là, pour vous faire une idée. Donc c'est hors de prix. Ils sont au bout du rouleau, là. Et c'est quand même une chouette initiative. Donc si vous avez un peu...
Il y a une adresse pour faire ces dons ?
Il y a évidemment une adresse. Je l'ai pas devant les yeux. Il y a un Instagram, un Twitter, c'est AlarmFun. Alarm, A-L-A-R-M, sans E, fun. Donc voilà. Et je crois qu'il est temps de se quitter.
Il est temps de se quitter, de se dire au revoir. À la semaine prochaine. C'était La Poulie.
Salut.